Géopolitique. Catherine Monet.
C'est comme un cri primal, iral, va-t'en, dégage en arabe. Très vite, cette injonction des manifestants tunisiens se propage parmi les autres régimes autoritaires de la région. Ce slogan inédit, ce cri libérateur, est comme une promesse de changement rapide. Le peuple veut la chute du régime, scandent bientôt des milliers de voix au Yémen, en Syrie ou en Libye. Mais dans ces pays-là, c'est comme si la formule magique, soudainement, ne marchait plus. La rapidité des révolutions tunisiennes et égyptiennes a fait place à l'enlisement, 8 mois après le début du printemps arabe. Syrie, Libye, Yémen, il y a des révolutions qui n'en finissent pas. Pour quelles raisons ces révoltes s'enlisent? Quel parallèle peut-on dresser dans ce monde arabe éclaté et multiple? Pour débattre autour de cette question, 3 invités sont réunis aujourd'hui. Patrick Emzadeh, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, ancien militaire, ancien diplomate dans plusieurs pays arabes, vous connaissez particulièrement bien la Libye et vous venez d'ailleurs de publier « Au cœur de la Libye de Kadhafi », un ouvrage qui nous ouvre les portes de ce pays singulier que l'on connaît mal. Avec nous également en studio, Hamid Bozarslan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, politologue, directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales et vous venez de contribuer à un ouvrage collectif intitulé « Passion révolutionnaire », un livre qui analyse les engagements révolutionnaires dans leur contexte historique. Et enfin, nous retrouvons également Mathieu Guider, chercheur, professeur d'islamologie. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, mais je ne citerai que le dernier qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui et qui est intitulé « Le choc des révolutions arabes ». Alors messieurs, au risque peut-être de paraître anecdotique, j'aimerais commencer ce débat en abordant la question de la personnalité de ces dirigeants qui s'accrochent au pouvoir. Qu'y a-t-il de particulier chez un colonel Kadhafi ou chez les présidents syriens et yéménites pour qu'ils se maintiennent encore au pouvoir alors qu'un Ben Ali Moubarak, face à une contestation similaire, avait déjà jeté l'éponge ? Patrick Emzadeh, à plusieurs reprises, on a dit que le dirigeant libyen était vraiment sur le point de tomber. Or, s'il y en a bien un qui semble résister à toutes les pressions et à tous les bouleversements politiques depuis plus de 40 ans, c'est bien lui, non ?
Oui, bah écoutez, je pense en fait qu'il faut tout d'abord faire la part des choses entre la propagande et l'information. Je crois qu'on a dit depuis 4 mois régulièrement qu'il allait partir tous les jours et on voit bien que ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, tout simplement, le colonel Kadhafi, c'est quelqu'un qui est venu au pouvoir dans les années 60, en 69 exactement, et qui s'est nourri d'idéologies d'abord nasériennes et révolutionnaires, et donc qui s'est structuré autour de la rhétorique révolutionnaire, du combat, et aussi du combat nord-sud. Donc ça a été quand même s'il y a eu du pragmatisme et beaucoup de comédie, disons, dans ses apparitions, il est quand même structuré dans une grille de lecture de l'affrontement du sud contre le nord, de la lutte contre le colonialisme et contre l'impérialisme. Et donc on voit bien que ce qui s'est passé effectivement au début de l'insurrection, qui je rappelle a duré 10 jours, puisqu'après on est quand même passé dans une guerre civile, et l'intervention militaire de l'OTAN l'a confirmé dans cette vision du monde et en fait a fait qu'il s'accroche au pouvoir et qu'il ne lâchera pas.
J'imagine que le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale aussi, est-ce que ça l'encourage dans cette résistance ? Est-ce que c'est un effet ?
Tout à fait. En fait, je crois qu'il faut avoir à l'esprit une des choses les plus récentes que certains ont encore à l'esprit, c'est son apparition l'année dernière à l'Assemblée des Générales des Nations Unies, où il a déchiré la charte des Nations Unies en disant qu'en fait c'était la charte des puissants et que ça ne faisait que maintenir l'ordre établi. Et je pense qu'il le pense vraiment. Donc effectivement, pour lui, cette Cour pénale internationale, elle a été mandatée par les puissants et il ne lui reconnaît aucune légitimité. De toute façon, il ne Bah, effectivement, effectivement, ça l'incite, bien sûr, ça le confirme dans son idée de ne pas quitter son pays, puisqu'il serait arrêté autrement.
Alors, que dire du président yéménite Ali Abdallah Saleh, 33 ans déjà au pouvoir, et qui, malgré l'attaque qu'il a subie début juin dans son palais de Sanaa, n'aurait visiblement toujours pas renoncé à revenir dans son pays et à prendre les rênes de son pays, Mathieu Guider?
Oui, je crois que pour comprendre la dynamique de ces pays, il faut voir le contexte local et le contexte personnel. Si ces individus sont restés au pouvoir aussi longtemps, plus de 42 ans pour le colonel Kadhafi, plus de 33 ans pour Saleh, c'est parce qu'ils avaient une certaine compétence dans le maintien au pouvoir. Donc ils avaient réussi l'un et l'autre dans un pays tribalisé, dans un pays où il y a énormément de disparités ethniques, culturelles et politiques. Ils ont réussi à se maintenir sur des décennies. Donc on n'est pas face à des individus qui sont arrivés au pouvoir hier. Et cette compétence de fédération, quitte à ce que ça soit par la division ou autre, elle se maintient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont toujours derrière eux, et cela, on ne pourra rien y faire, même s'ils ont que 1% de la population derrière eux. Au Yémen, ça l'a fait beaucoup de monde, ça l'a fait plus de 100 000 personnes, et en Libye, ça l'a fait également plus de 100 000 personnes.
Mais il y a quand même quelque chose de particulier avec la personnalité du président Saleh. L'ambassadeur des États-Unis récemment, cette semaine, disait que on pouvait pas le mettre comme ça dans un coin, que c'était une personne particulièrement obstinée. Il est quand même connu aussi pour ses manœuvres imprévisibles. Enfin, il y a quand même quelque chose dans sa personnalité.
Oui, alors on ne va pas psychanalyser des gens qui sont à distance. Je ne suis pas un psychiatre ni un psychologue. Ce que l'on peut dire à travers leurs apparitions médiatiques, à travers leurs discours, c'est qu'effectivement, ils sont dans un rôle particulier. Ils se sont mis dedans, ils se perçoivent d'une certaine façon. Pour le colonel Kadhafi, il se perçoit comme un guide, comme un révolutionnaire. C'est clair, c'est net, ça a été dit. Et cela est vrai. Il a une mégalomanie assez développée, d'ailleurs. Il estime qu'il a fait la Libye, quasiment, son unité. Et lorsque on voit, aujourd'hui, il le dit clairement, je mourrai dans ce pays, je serai un martyr, je ne sortirai pas, je ne quitterai pas. Donc il a aussi une conscience de sa position historique dans l'histoire de la Libye. Il ne veut pas être celui qui a quitté son pays fuyant comme Ben Ali. Il y a une psychologie complètement différente. Pour Saleh, c'est exactement la même chose. Il vient d'une tribu qui a quand même dominé la scène politique pendant plusieurs décennies. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va partir comme un lâche ou comme un fuyard. Il y a cette question de fierté qui est bédouine chez Kadhafi, qui est tribale chez Saleh, qui fait qu'il est quasiment impossible, rien que pour la fierté, il est capable de rester là, à se battre pendant des mois et des mois encore. Donc on est également dans cette logique culturelle dont il faut prendre compte parce qu'elle est importante pour les gens en place.
Amit Bozarslan, qu'est-ce qu'on peut dire sur le président Bachar al-Assad qui a hérité du pouvoir de son père? On est quand même là face à une personnalité assez différente des deux précédentes.
Je pense qu'effectivement on est face à une personnalité très différente, mais cela nous emmène aussi à nous rendre compte de la spécificité de la Tunisie et de l'Égypte. Dans ces deux pays-là, on parlait de l'existence d'un cartel. Le raïs, le président, était l'arbitre de ce système, même s'il était le premier à en profiter. Mais les autres composantes de l'État, notamment l'armée, disposaient tout de même d'une autonomie. Or, en Syrie, on voit que cette autonomie est extrêmement réduite. Certes, il y a un cartel, mais ce cartel est beaucoup plus organique. Ce cartel représente un système para-étatique. On a l'impression effectivement que entre l'armée et la logique milicienne, il n'y a pas de différence. Entre l'économie officielle et l'économie prédatrice, il n'y a pas de différence. Et le patron du cartel joue pas uniquement le rôle de l'arbitre, mais structure totalement, organiquement le cartel. Ce qui explique effectivement pourquoi il a pu hériter à 34 ans la fonction présidentielle de son père et pourquoi aujourd'hui il se maintient. Je pense qu'étant que cette dimension para-étatique qui domine totalement l'État, cette logique milicienne qui domine totalement l'État ne disparaît pas, très probablement il sera très difficile de déloger le président Assad, en moi qu'il y a effectivement un coup d'État. Il y a un deuxième facteur qu'il faudrait mentionner, c'est bien entendu la donne confessionnelle. Je pense qu'il faudrait être très prudent. L'État syrien n'est pas un État alaouite. Il n'y a pas une confessionnalisation totale du pouvoir. Il n'en reste pas moins que le président lui-même et sa clique aimant de cette communauté, et ils peuvent parfaitement chercher à faire peur au sein de cette communauté pour obtenir son allégeance. Et là aussi, c'est une question de don. Les Alaouites représentent quand même quelques 2 millions de personnes.
Géopolitique, le débat.
Suite de Géopolitique en compagnie de nos invités, Patrick Hemzadeh, Amit Bozarslan, Mathieu Guider. Vous avez commencé à évoquer la question, la spécificité de la nature de chaque régime, Amit Bozarslan. Autre différence, autre parallèle, autre explication possible, y a-t-il par exemple des similitudes dans le type de répression mise en place en Syrie, en Libye ou au Yémen qui pourrait expliquer que ces régimes résistent mieux que la Tunisie et l'Égypte, par exemple? Je ne sais pas. Est-ce que la peur des Moukhabarat, la police secrète, est-elle la même en Syrie qu'elle ne l'a été en Égypte, en Tunisie? Alors, Mathieu Guider?
Tous ces régimes sont policiers avec des services de renseignement Moukhabarat très très puissants. La Tunisie était un cas d'école, l'Égypte était encore correcte sur ce plan-là, donc il n'y a pas véritablement de différence sur ce plan-là. Et j'irai plus loin dans une explication simple mais claire. Je crois que si aujourd'hui les autres régimes se maintiennent, c'est parce que l'armée n'a pas lâché le pouvoir. En Tunisie, quoi qu'on en dise, en Égypte, quoi qu'on en dise, si l'armée n'avait pas lâché le président, c'est-à-dire si ceux qui détiennent la force brute n'avaient pas lâché le président Ben Ali, le système serait encore là et il aurait pu faire exactement ce qu'on voit en Libye. Si en Égypte, l'armée n'avait pas lâché, n'avait pas poussé à la sortie Moubarak, on aurait pu avoir exactement la même chose, c'est-à-dire à la syrienne, carrément le même processus. Donc pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas véritablement une spécificité dans tous ces régimes. La seule chose, c'est que dans certains cas, l'armée, pour différentes raisons, a préféré soit faire partir le président comme en Tunisie, soit le mettre à l'écart pour ne pas perdre la totalité. Dans d'autres, elle reste derrière son président comme en Syrie ou comme dans d'autres pays d'ailleurs. Et donc c'est une question uniquement de force brute. Et là, on touche à une question de fond. Est-ce qu'il est possible de changer les régimes arabes pacifiquement? Ma réponse est non. Ma réponse est claire, elle est non. Même en Tunisie, on croit, ou en Égypte, on croit que c'est un changement pacifique, mais pas du tout. C'est un changement pacifique parce que l'armée n'est pas intervenue.
Patrick Hemzadeh, en matière de pratiques coercitives, on se souvient du discours, notamment du colonel Kadhafi, fin février, qui avait donné froid dans le dos. Est-ce que ce type de discours, où il prévient qu'il va traquer vraiment les manifestants jusque dans le moindre recoin du pays, est-ce que ça a un impact sur les populations? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Bah écoutez, juste avant de revenir sur le discours, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'on a dit avant. Moi, je pense que l'appareil répressif et coercitif, alors d'abord en Libye, il existait bien sûr, mais on a toujours tendance à voir la longévité de ces régimes uniquement à travers le prisme de la répression. Je pense qu'il y a eu, en ce qui concerne la Libye en tout cas, tout un éventail de panels, notamment la rétribution. Bien sûr, c'était un État rentier et donc ça permettait de rétribuer les uns et les autres et notamment d'acheter les allégeances. Il y a aussi la compromission, donc un certain nombre de gens qui étaient compromis depuis des années, effectivement, ont peur du changement. Et puis, il y a tout simplement, finalement, la peur du changement. C'est-à-dire, on a vécu pendant 42 ans, bon an, mal an, avec un certain nombre d'avantages, des logements gratuits, des voitures aussi gratuites régulièrement. Et finalement, les gens, même s'ils n'aiment pas trop Kadhafi, ont peur du changement. Et ça explique en partie le fait qu'en Tripolitaine, il y ait encore de nombreuses personnes qui soient attentistes, c'est-à-dire qui finalement ne feront rien pour faire chuter le régime. Alors maintenant, pour revenir au discours, je crois que c'est effectivement ce discours du 21 février, il est très important. Parce qu'on peut dire qu'il y a eu 4 jours, du 17 au 21 à peu près, où le régime a été sonné, et où effectivement, y compris à l'ouest, des gens sont descendus dans la rue. Et là, contrairement à Ben Ali, Kadhafi a éprouvé le besoin et a senti qu'il fallait qu'il reprenne les choses en main. Et ce discours, effectivement, qui est devenu maintenant une chanson qui a été mixée en techno et qui est un grand modèle, on dirait Sajar en arabe, c'est la pause rimée, a eu un impact très fort sur les populations parce qu'il a montré qu'il ne lâcherait pas. C'est une preuve de détermination et il ne lâcherait pas comme les deux prédécesseurs de Tunisiens et Égyptiens. Et donc effectivement, ça fait comprendre à ces 60% de population attentiste qu'il fallait qu'elles attendent. Et c'est ce qui s'est fait finalement. Maintenant, les gens sont rentrés chez eux et attendent parce qu'ils savent qu'il se battra jusqu'au bout. Alors maintenant, en ce qui concerne aussi, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est vrai que ça a été beaucoup cité par nos dirigeants. Je rappellerai qu'en 2003, le président Bush avait dit qu'il ramènerait l'Irak au Moyen-Âge. Donc là, on est aussi dans l'injonction, dans la propagande.
Amit Bozarslan, un mot notamment sur la Syrie.
Oui, je pense que là aussi on voit la distinction avec la Tunisie et l'Égypte. Il y a deux distinctions. En premier lieu, le président tunisien et par la suite le président égyptien avaient annoncé qu'ils n'allaient plus se représenter. Cela signifiait deux choses. D'une, ils demandaient à leur population de les reconduire dans leur illégitimité. Et en deuxième lieu, cela signifiait qu'ils ne présentaient plus du tout d'horizon d'attente aux autres composantes de l'État. Or, en Syrie, cette gestion assez catastrophique, effectivement, a été évitée. Je crois que Mathieu Guider a tout à fait raison. Si l'armée a lâché Ben Ali et Moubarak, elle est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait rien, il n'y avait plus de d'issue, puisque le président lui-même ne pouvait plus être reconduit. Mais il y a aussi une deuxième distinction qu'il faudrait prendre en considération. On n'est pas du tout en Syrie en face de la centralité que le Caire ou Tunis occupent dans l'espace politique de ces deux pays respectifs. Et je crois que, bon, le président Assad, ses collaborateurs ont mis en place une ingénierie de répression qui est assez particulière, qui consiste à casser, à fragmenter l'espace de contestation, de la contestation et le temps de la contestation pour éviter que Damas soit concerné. Ainsi, on voit combien, ville après ville, l'armée se attaque, détruit une partie de la ville, se retire, va dans une autre ville, et cela, effectivement, empêche la contestation de s'agréger et de se présenter à Damas ou à Alep. Le pouvoir le fait à ses risques et périls, on le voit aujourd'hui, puisque se sont constitués désormais des républiques autonomes pratiquement dans chaque ville. On voit combien effectivement la résistance localement arrive à s'ancrer dans la durée, mais en même temps c'est une résistance qui n'arrive pas du tout à se concentrer massivement comme cela a pu se produire sur la place Tahrir.
Alors on évoque souvent le précédent de la répression de la ville d'Hama dans les années 80. Est-ce que ça a un impact sur la population ou pas encore aujourd'hui malgré tout?
Ben, je pense que bon, un événement comme la répression de Hama ne peut pas être oublié. Je pense que là, il y a effectivement un traumatisme très durable. D'ailleurs, lorsque vous allez à Hama, vous le voyez totalement. Une bonne partie de la ville est une ville neuve. Mais en même temps, on a vu que ce traumatisme a pu être surmonté. D'abord, d'ailleurs aussi à Hama. La contestation n'a pas commencé à Hama, la contestation a commencé dans le sud, dans la ville de Dera. Voilà. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, de semaine après semaine, la population s'organise. Lorsque je disais des républiques de résistance, ça veut dire vraiment de la création d'une solidarité interne, le système de protection, le système de redistribution. On a l'impression qu'on n'est plus du tout dans la logique d'affrontement frontal comme à Hama. N'oublions pas qu'à Hama, c'était effectivement une insurrection des frères musulmans. Or, aujourd'hui, le mouvement reste pour le moment essentiellement pacifique, mais elle est beaucoup plus populaire, elle est beaucoup plus intégrée, elle est beaucoup plus fragmentée aussi.
Un autre commentaire, il nous reste deux petites minutes, qui souhaitent ajouter une précision. Mathieu Guider, peut-être.
Oui, sur le modèle syrien, je crois qu'aujourd'hui le régime est dans un délire conspirationniste où il veut absolument expliquer que ce sont des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur qui sont en train de l'attaquer. On a l'impression qu'il y a des terroristes dans toutes les villes syriennes aujourd'hui, et il prend par là cela pour légitimer son action violente. Or, il n'y a pas des centaines, ou alors il faudra expliquer qu'il y avait des centaines de terroristes avant et qu'on le découvre aujourd'hui en Syrie, qu'on croyait complètement épargné par cela. Donc on est dans cette peur, la politique de la peur qui est instaurée aujourd'hui, renforce le régime à l'intérieur en coalisant les alaouites, notamment en particulier. Il y a quand même le système des miliciens a été rappelé et considérable. On a des individus, des milices, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune fonction dans l'armée ni dans la police, qui vont attaquer les gens, les frapper, les tuer, voler leur maison. Et d'un autre côté, on a également, brandissant cette peur d'Israël, brandissant la peur de l'invasion américaine ou autre. Donc on est dans une logique de la peur qui est très particulière aujourd'hui dans ce pays. Et le nombre de morts tous les jours...
Plus de 2000, apparemment, d'après les organisations des droits de l'homme.
Voilà, donc on peut tout dire sur ce pays. Toujours est-il, aujourd'hui, nous assistons impuissants à un massacre d'une population civile.
Merci Géopolitique, consacré aujourd'hui à ces révolutions qui n'en finissent pas, en présence de nos invités, Mathieu Guider, Amit Bozarslan, Patrick Emzadeh. Nous devons marquer une pause de quelques minutes, le temps d'un point sur l'actualité, mais nous nous retrouvons tout de suite après pour la deuxième partie de notre émission.